Interview.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, Ismo sur les ondes de Erdiwa. Et pour l'interview du jour, je suis avec Gauthier. Bonjour Gauthier.
Salut.
Alors toi Gauthier, tu as une maison d'édition qui s'appelle Uchikuchi, dont l'atelier se trouve à Lucandiwa.
Oui, bah après, fin de 2020 à 2023, on était à Die, mais on s'est rapatrié à Lucandiwa après. Et voilà, et depuis c'est là que les choses se passent.
Et pour la période estivale, tu ouvres les portes de l'atelier.
Ouais, on avait déjà tenté le coup l'an dernier, mais ça avait été très succinct, on avait fait pas mal de travaux, et puis là, cette année, on est vraiment prêt à accueillir le public.
Avant toute chose, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de ton parcours ?
Alors, c'est un parcours qui commence il y a quasiment 25 ans, parce que c'était en janvier 2002, je fais un fanzine avec un pote, et puis... On avait des cartes de réduction jeunes, on se cassait Angoulême pour le défendre. On a dormi dans la rue, dans le froid, Angoulême. Mais ça ne nous a pas découragés. On est revenu, en fait, à l'époque, j'habitais à Paris. On s'est fait engueuler par les autres copains avec qui on faisait du fanzine d'habitude, qui ont fait « Ouais, vous faites cavalier seul » et tout ça. Donc on a refait un fanzine. Et puis, le fanzine s'est arrêté au bout de 15 ans. C'était Turkey Comics, mais... Ça a donné naissance à une maison d'édition qui s'appelle Uchikuchi et qui en janvier prochain fêtera ses 25 ans, donc un quart de siècle. J'en suis assez fier et toujours étonné.
Bah bravo, c'est déjà un beau parcours. Alors on précise pour les auditeurs que Uchikuchi, c'est quand même une maison d'édition qui est dédiée à la bande dessinée.
Voilà, ouais, bande dessinée, on fait pas de la bande dessinée classique. Nous, on s'intéresse à la bande dessinée qui va regarder du côté des sciences humaines, donc histoire, politique, philosophie, etc. Qui n'est pas didactique pour autant. C'est pas de la bande dessinée. Enfin, il n'y a pas une espèce de morale ou de trucs qui vont t'apprendre des choses sur la vie à en tirer. C'est plus des pistes de réflexion, quasiment des essais en bande dessinée. Et puis, on privilégie beaucoup les formes expérimentales, bien entendu.
Donc si je comprends bien dans ton parcours, c'est cette expérience du fanzine qui t'a orienté vers ce choix d'ouvrir une maison d'édition.
Je pense que c'est un peu plus viscéral que ça. Parce qu'il y a quelques années de ça, mes parents m'ont ramené une valise avec tous les fanzines que je faisais quand j'étais enfant, sans savoir que c'était du fanzine. Mais j'ai grandi à côté d'une photocopieuse, on va dire, quoi. Et puis l'objet imprimé m'a toujours intéressé et c'est le fait de découvrir qu'en fait on peut en faire des choses très simples comme un fanzine bêtement photocopié agrafé, comme des choses beaucoup plus complexes où t'as des questions de reliure, de différents papiers qui vont se poser, en fait de modes d'impression aussi qui m'ont intéressé, qui continuent de m'intéresser aujourd'hui.
Par exemple ?
Ouais, par exemple, nous, on commence à être reconnus pour l'utilisation des reliures à dos ouvert, ce qui permet, quand tu as une belle pagination en fait, sur ta BD, donc notamment notre plus grosse BD, c'est Todd le Géant qui fait 1008 pages, d'avoir une reliure en fait, où le dos est complètement souple, donc tu peux complètement ouvrir ta bande dessinée et pas, voilà, le truc ne se referme pas tout seul, quoi. Et en plus, alors, le fil de la reliure est apparent. Donc nous, comme on fonctionne en économie de couleur sur les couvertures, on va choisir un fil qui est en accord avec la couleur principale de la couverture. Donc tu vois, c'est des petits détails comme ça. Et puis en fait, de plus en plus aussi, dans les modes de fabrication, les questions qui se posent, elles sont liées à l'écologie.
Bien sûr.
Donc par exemple, on a peu ou pas de vernis sur nos bouquins, des choses comme ça. Parce qu'en fait, tu rajoutes du plastique là où il n'y en a pas besoin.
Donc il y a tout ce souci du détail qui amène à presque plus qu'une bande dessinée, mais à un véritable objet, un objet d'art en fait.
Oui. On va clairement pas négliger le fond. Enfin, le propos des auteurs, autrices est essentiel. Et c'est ça qui donne l'envie. En fait, Pour te donner un exemple, juste en fin de matinée, là, j'ai échangé avec un auteur et je lui ai dit, écoute, quand je vois en fait ce que tu nous envoies là, je commence à fantasmer sur l'objet papier. Donc c'est que pour moi, il y a une avancée dans ton projet. C'est-à-dire que tu peux pas imaginer en fait un objet papier hors contexte, mais effectivement, tu vas recevoir des projets d'artistes en fait qui vont commencer à susciter une émotion. Et chez un éditeur ou une éditrice, l'émotion se traduit par un fantasme de papier.
Ça fait rêver un peu, hein ?
Ouais, c'est sensuel.
Comment est-ce que tu fais pour donc choisir des auteurs que tu vas solliciter ? Quel est le processus pour inviter des auteurs dans ta maison d'édition ?
Ah, c'est une question qui est compliquée en termes de réponse, parce que ça serait bien sûr trop simple de dire qu'il y a une seule voie qui existe. Nous, on reçoit à peu près un projet par jour ouvré, et on en publie 5 par an.
Donc ça implique un choix.
J'ai tendance à dire que ma première fonction, c'est de dire non. Sauf qu'en fait, t'as plein de biais en fait, des gens que tu connais, avec qui t'as jamais travaillé, mais personnellement, tu te connais depuis longtemps. Et puis tout d'un coup, il y a l'envie de bosser ensemble qui est là. Là, on va relancer une revue aussi bientôt, en fait, il y a des jeunes auteurs, c'est leur première publication, donc en fait. Chez une maison d'édition, donc en fait ça sera leur première page publiée, et bien sûr derrière l'idée c'est qu'un jour ça arrive à aboutir à un projet plus long qui devienne un livre. T'as aussi les auteurs avec qui t'as grandi, par exemple je pense à mes comparses Christopher Oettinger, Olivier Philipponneau, ça fait quasiment 30 ans qu'on se connaît, quoi. Voilà, donc il y a plusieurs biais comme ça d'entrée. Après, c'est très très compliqué pour des jeunes artistes d'envoyer leur projet à une maison d'édition en espérant avoir une réponse positive, parce que comme je le dis, il y a beaucoup de casses, c'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité de publier tout et n'importe quoi, et c'est tant mieux, mais en plus il faut vraiment bien choisir, savoir pourquoi on sollicite telle maison d'édition et pas une autre. Il y a une question de ligne éditoriale, d'accord, entre le projet proposé et la ligne éditoriale de la maison d'édition qui se pose.
Actuellement, tu as ouvert les portes de l'atelier. Cet atelier se situe où précisément, à Lucandiwa ?
En face de chez moi.
C'est pratique.
Ouais. J'ai la chance d'avoir une petite dépendance, en fait, qui est une ancienne étable. Il y a 2x25 m². Donc une partie de nos stocks est là où on mettait les animaux. Et puis là où on met la paille, on met les éditeurs. Donc, c'est pas très bien isolé, mais c'est très fonctionnel quand même. Et puis, c'est là où on travaille. Alors, je dis on, puisqu'on est deux, en fait, depuis le mois de mars. Jeanne, qui était mon ancienne stagiaire, que les gens qui connaissaient en fait, la galerie rue Buffardel ont pu croiser en 2022. Donc, elle est restée vivre à Die et elle est devenue salariée de Uchikuchi. Et puis moi, donc en fait c'est le Saint des Saints, c'est là où en fait on va préparer les maquettes des livres, où on va concevoir vraiment par exemple les typons pour de la sérigraphie, les plaques de gravure quand il y a besoin, des choses comme ça. C'est là où on a une partie de la logistique aussi, parce qu'on stocke, on stocke quand même pas mal de bouquins au rez-de-chaussée. Et en fait on a un petit espace qu'on ouvre au public durant l'été ou durant la période hivernale, enfin de Noël, et où on présente tout notre catalogue, quelques fanzines aussi, notamment les fanzines de Azimut, qui est la maison d'édition de Jeanne, et de Naori, qui était aussi une de mes anciennes stagiaires, mais auxquelles je participe aussi en tant qu'auteur. Donc voilà, il y a des petits fanzines d'enfants, il y a plein de choses à voir, des sérigraphies, des gravures.
Donc on a bien compris que c'est en face de chez toi.
Ouais, et c'est...
Mais si on ne sait pas où c'est chez
alors
toi...
Alors effectivement, j'ai maintenu le secret là-dessus. Donc c'est un passe des sœurs. En fait, en gros, c'est entre Amen, l'église et la place de la Croix à Luc. Donc rien à voir avec les curetons. Mais on est entre les deux. Et c'est très simple pour nous retrouver. En fait, il suffit de se pointer en face de l'impasse des sœurs. C'est marqué, il y a un panneau impasse des sœurs. et il faut suivre le drapeau palestinien.
Voilà, très bien, c'est tout indiqué. Et des horaires d'ouverture
Donc, c'est sur nos horaires de bureau. Donc, c'est 10h, 13h le matin, 14h, 17h15 l'après-midi. Le lundi, on est fermé parce que c'est un peu le moment où on prépare les gros dossiers et tout ça. Et le mardi soir, quand il y a le marché des créateurs à Lucandiwa, ça nous arrive de faire des petites extensions jusqu'à 19h. Quoi.
Ah ouais, sympa, ouais. Et il y a du monde qui passe?
On aimerait qu'il y ait plus de gens.
Ah bah d'où une interview alors peut-être.
Exactement.
Quoi. Et qu'est-ce qu'on va y retrouver alors si je viens demain, qu'est-ce que je vais trouver?
Alors il y a tout le catalogue.
De Uchikuchi.
Il y a même des raretés, en fait, parce que tu as des livres qui sont épuisés dans le commerce, et puis en fait, c'est nous qui avons les derniers exemplaires. Donc, c'est l'endroit où tu peux encore les trouver. Je pense à une Fessé Oli, Francis Baer, des livres comme ça qui ont plusieurs années, qui ont bien marché, mais pour une raison ou pour une autre, ils ne sont plus disponibles aujourd'hui. Il y a nos dernières nouveautés, donc qu'on retrouve chez nous, mais qu'on peut retrouver ailleurs dans le Diwa, notamment à la librairie Mosaïque, mais aussi à l'entrepôt rue Buffardel. Il y a des fanzines dont je parlais tout à l'heure, donc avec les fanzines de la petite maison d'édition Azimut, et puis deux trois autres fanzines, soit qui sont faits par des auteurs de la maison d'édition, soit par des gens qui ont exposé du temps de la galerie, des gravures et des sérigraphies, et surtout il y a des super bonnes affaires à faire. J'explique pourquoi. En fait, quand tu es éditeur, tu produis des livres, les livres ils circulent, ils vont en librairie, ils reviennent, et des fois ils reviennent abîmés. Et du coup, c'est ce qui s'appelle un défraîchi. Alors, le livre il est totalement lisible, mais tu n'auras pas envie de l'acheter pour 20 balles. La plupart des éditeurs, ils les pilonnent, c'est-à-dire qu'ils les mettent dans des machines qui broient le papier pour en refaire de la pâte. Et nous, en fait, on essaye d'en récupérer le maximum et on fait des cartons où tu ne sais pas ce que tu achètes. Le poids du carton est indiqué sur le carton et c'est 5€ le kilo. Donc, c'est-à-dire que pour 25 balles, tu as 5 kilos de BD. C'est juste que il y a un coin qui est un peu pété, une jaquette qui est déchirée, des trucs comme ça, mais sinon c'est des très bonnes BD tout à fait lisibles pour pas cher.
Ah ouais, c'est hyper intéressant comme offre promotionnelle, mais donc la personne ne sait pas les bandes dessinées qu'elle va acheter.
Faut une part de mystère.
Ah c'est bon, ah ça me plaît.
Alors ce qui est bien c'est qu'à ce prix là en plus si t'as des doublons, des bouquins que t'avais déjà, en fait tu peux les offrir autour de toi sans trop de soucis quoi. T'auras quand même fait une bonne affaire au final.
Ah ouais.
Et t'auras fait des heureux.
Donc c'est essentiellement Uchikuchi, le catalogue de Uchikuchi qu'on trouvera dans cet atelier.
Tout à fait.
Vu que c'est l'atelier Uchikuchi. Ouais. C'est de la bande dessinée qui est plutôt pour adultes.
Il y a une partie jeunesse qui n'est pas négligeable. Alors d'autant qu'on est très proche d'une maison d'édition qui s'appelle Trois Oeils. Et du coup, c'est un peu les extras par rapport au catalogue de Uchikuchi. Trois Oeils, en fait, ils ont fait Forban l'an dernier. Qui est une bande dessinée qui reprend un peu la suite d'un de nos gros classiques qui est Détective Roll Mops. Et du coup, on défend leur catalogue aussi. Mais en plus de ça, la dernière fois que les auditeurs et auditrices de RDWA ont entendu ma voix, c'est parce que j'étais venu avec Gregory McKay, donc cet auteur australien qui fait la série Anders, série jeunesse absolument géniale. Et bien sûr, on trouve ces BD... dans notre catalogue et dans notre atelier.
Cet auteur qui est devenu un ami, en fait.
Ouais.
C'est ça qui est aussi magique dans cette histoire, c'est que c'est aussi une aventure humaine, quand même.
De toute façon, je crois que c'est la base. Enfin, s'il y avait pas eu, si ça avait été juste de la technique, je crois que ça aurait pas duré aussi longtemps. Et l'aventure humaine, elle est belle, elle est riche aussi, quoi. Mais quand tu vois que c'est une maison d'édition qui a 25 ans et que tu as la moitié des membres qui ont moins de 30 ans... Enfin, tu vois, il y a eu un renouvellement. Il y a aussi le fait que, moi, avec mon expérience, j'accepte de diminuer ma mainmise sur cette entité pour laisser une nouvelle génération prendre la place. Enfin, ouais, non, c'est...
C'est de la transmission.
C'est de la transmission et je trouve ça très, très beau.
Donc, t'arrives à, justement, enlever la mainmise que t'avais auparavant. Donc, j'imagine que c'est toi qui as eu l'idée du nom, Uchikuchi.
On était à deux et on était dans un état assez second, alors je par une copaternité, ok, mais la paternité tout seul, non.
Mais la référence, c'est
Il y en a plusieurs. Le hoochie-coochie, à la base, c'est une danse sexuellement provocante. C'est genre, c'était un peu la Macarena ou la Lambada de la fin du 19e siècle. Et puis, en fait, ça s'est c'est passé dans l'argot des Afro-Américains. Et pour désigner, en fait, c'est avoir le feu aux fesses, clairement, le hoochie-coochie.
Ah oui.
Ouais. Et puis, le vrai nom, c'est The Hoochie-Coochie. Et je laisse aux auditeurs et auditrices le soin de compter les initiales, ce que ça fait. Les trois lettres. Voilà. Donc, ouais, tout est dans le nom.
Tout à l'heure, tu disais que tu intervenais en tant qu'auteur également.
Oui.
Tu dessines aussi ?
J'essaye. C'est très difficile de se défaire d'une maison d'édition. Je me suis dit que si un jour je me faisais tatouer un truc, ça serait le logo de Hoochie-Coochie, tu vois. Et là, je suis sur un projet qui correspond tout à fait à la ligne de The Hoochie-Coochie, qui parle en fait des premières décennies de la colonisation de l'Algérie par la France. Donc, il y a un chapitre de notre histoire qui est sombre, dont on parle peu.
Absolument, oui. C'est,
en tout cas,
c'est mystérieux.
Dans les programmes scolaires, en fait, à la limite, on va parler de la guerre d'Algérie, ce qui est aussi parler d'une forme de happy end dans le roman national, puisqu'en fait, on parle de la fin de la colonisation, l'Algérie prend son indépendance et hop, c'est réglé. Mais en fait, l'histoire, elle est beaucoup plus complexe et beaucoup plus négative que ça, quelque part. Parce qu'on ne sait pas trop comment on y est arrivé en Algérie. Et puis, on ne parle pas trop des relation après où c'est enfin en fait il y a la néocolonisation qui existe quoi. Donc ça j'en parle pas en tout cas dans ma bande dessinée, mais je pense que la bande dessinée que je suis en train de faire, il faut aussi la lire avec à la conscience le fait que ces liens néocoloniaux en fait par rapport à il y a pas que l'Algérie hein, et même l'Algérie par rapport au néocolonialisme s'en sort pas si mal par rapport à d'autres pays d'Afrique. Mais qu'en tout cas enfin il y a ces liens qui marquent notre histoire en tout cas, ça c'est clair.
Aux auditeurs que je suis avec Gauthier et que nous sommes en train de parler de la maison d'édition Hoochie-Coochie dont l'atelier se trouve à Luc-en-Diwa et qui ouvre ses portes pendant la saison estivale jusqu'à la fin août.
Jusqu'à la fin août, oui.
Je me demandais, Hoochie-Coochie, ça fait 25 ans d'existence maintenant, un quart de siècle. C'est quoi ta vision de la bande dessinée aujourd'hui en 2026
C'est plus la même chose qu'il y a 25 ans. On le sent d'autant plus cette année qu'on a eu la perte douloureuse de Marjane Satrapi au mois de juin dernier, qui a entraîné dans son sillage la bande dessinée ailleurs, c'est-à-dire en fait avec un statut beaucoup plus reconnu, beaucoup plus respecté. En France, on arrête de faire des petits Mickey et de paraître d'être des... Voilà, enfin, de faire du divertissement, c'est plus ça après Persepolis. Néanmoins, en fait, c'est un terrain culturel qui échappe pas à ces contradictions et aux combats qu'on voit à l'heure actuelle, donc c'est-à-dire un désengagement de l'État, des pertes de repères par rapport à des acteurs industriels, éventuellement financés par des gens fort peu recommandables, je pense à Hachette et Bolloré en premier lieu, mais qui vont se faire passer des fois pour des... Enfin, en fait, c'est un peu le loup qui met la peau du mouton, quoi, des fois. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont très compliquées. En plus de ça, on est face à un paysage du livre, en général. On est à la veille d'une chute de dominos massive. Donc il y a un des diffuseurs principaux de la bande dessinée alternative qui est en train de faire faillite, Macassar. Donc nous, c'est pas notre diffuseur, mais ça affecte beaucoup de maisons d'édition avec lesquelles on a des liens très proches. Je pense notamment à Même Pas Mal, dont on peut retrouver quelques livres à l'atelier. Mais voilà, mais je parlais de domino en fait, et nous on est en train de se dire, ben, à quel moment en fait on va être pris dans cette tourmente, quoi.
Et ce qui me fait rebondir sur quelle est la nature un peu des liens, de la solidarité qui peut exister entre ces maisons d'édition.
Bah, déjà, nous, il y a une dizaine d'années de ça, on a participé à la création d'un syndicat qui s'appelle le syndicat de l'édition alternative, qui va regrouper des auteurs, enfin des éditeurs, des maisons d'édition de bandes dessinées alternatives, mais pas que. Enfin, c'est-à-dire alternatives, oui, mais pas que bandes dessinées. C'est lié à des formes de contestation qui avaient lieu au moment du festival d'Angoulême, mais du coup il y a des maisons d'édition d'images en général, de jeunesse ou autres qui sont venues nous rejoindre, et voilà, on discute entre nous. Ça a permis, ben, concrètement en fait, l'an dernier il y a un livre qui s'appelle Débordé Bolloré qui a été porté par plus de 120 maisons d'édition, enfin coédité par plus de 120 maisons d'édition, qui a été publié. C'est pas directement lié à l'existence de notre syndicat, le SEA, mais on retrouve quand même quelques noms bien inscrits dans le SEA parmi les coéditeurs de ce livre. Et voilà, je pense qu'en fait, il y a des formes de résistance qui se mettent en place, mais nécessairement, parce qu'on n'a pas envie de se faire...
Oui, il y a une espèce de rouleau compresseur, enfin, c'est l'image que j'ai un peu lorsque tu décris cette situation et l'importance en fait, justement, de créer ce syndicat de l'édition alternative, hein, c'est bien ça.
Bah, la question en fait, tu vois, avant l'émission, en fait, je te disais, bah, c'est quasiment de la vente aux producteurs qu'on fait, comme un petit producteur de fruits, de légumes, de, voilà.
Dans ton atelier à Lucandiwa.
Exactement. Oui. Donc en fait, c'est le même. Moi, je suis éditeur rural. Autour de moi, il y a des maraîchers, il y a des agriculteurs, mon rapport à ma profession est pas. Enfin, en fait, il y a vraiment des similitudes, quoi. C'est-à-dire que je suis pas sur un besoin primaire comme celui de se nourrir, mais en tout cas, dans ma façon de faire les choses, il y a quand même des similitudes, en tout cas, avec mes collègues maraîchers ou autres.
Est-ce que tu es déjà allé voir un collègue maraîcher ou agriculteur et lui proposer d'échanger un carton de livres d'occasion contre un carton de fruits et légumes ?
Non, cette pratique s'est jamais faite. Mais on a un de nos auteurs essentiels du catalogue qui a fait une reconversion et qui est devenu maraîcher. Et du coup, qui travaille à expliquer par la bande dessinée en fait le fonctionnement de tout ce qui est agronomie en fait en France, voilà. Et en fait, je pense que le jour où il aura fini son bouquin, on va faire quelques conférences avec la Confédération paysanne, des choses comme ça, quoi.
Il y a des ponts qui se préparent un peu de part et d'autre, on a l'impression aussi.
Bah heureusement, il faut, en fait. Oui. Il faut. C'est ce que je voulais dire, c'est qu'on est dans des écosystèmes qui ne sont pas si éloignés. Et tu vois, par exemple, par rapport à l'agriculture, pour en revenir à ce truc-là, c'est qu'on parle du conventionnel en agriculture, comme si c'était la norme de foutre des pesticides, des intrants et tout ça. Et du coup, il faudrait que l'agriculture bio, elle se définisse par rapport à un truc dégueulasse. Et nous, c'est un peu... Enfin, en fait, typiquement, on a le même problème avec l'édition. C'est-à-dire que la bande dessinée, c'est plus de 6000 titres par an.
Ah ouais.
On en produit 5. Voilà. Donc nous, on ne va pas mettre des pesticides dans nos bouquins.
5 productions estampillées Uchi Kuchi par an.
Ouais. Et puis, bah, c'est amplement suffisant, en fait, parce que quand tu en fais plus, t'as pas le temps de l'humain.
Oui.
Tu peux pas consacrer du temps
à l'auteur,
voilà,
au lecteur.
Bonne... Bah ouais,
c'est ça en fait. C'est... Parce que ouais. Moi, je me souviens, je suis venu te voir de temps en temps dans la boutique rue Camille Buffardel. Oui. Donc, tu as une attention pour chaque personne qui rentre, pour l'accompagner dans cette découverte d'auteurs qu'il ne connaît peut-être pas. Et je pense que c'est indispensable en fait.
Faut partir du principe qu'il y a aucun livre qui a une évidence. En fait, enfin, tu peux. En plus, la BD, il y a un côté graphique, donc tu peux avoir une espèce de coup de cœur pour le dessin et tout ça. Mais finalement, être déçu par le propos. Et moi, je trouve ça intéressant d'amener les gens vers Bah, j'aime bien en fait que les gens des fois me disent ah là j'accroche pas du tout sur le dessin, et puis de les convaincre qu'en fait peut-être qu'ils accrochent pas sur le dessin, mais peut-être que c'est le livre qu'ils attendaient de lire quelque part, quoi. Mmh. Et ouais, non, il y a pas d'évidence là-dessus, et en fait c'est vraiment des mondes très particuliers. Comme je disais, nous on travaille beaucoup sur les sciences humaines en bande dessinée, donc en fait il y a le processus de l'idée en fait qui passe par et l'image et la narration textuelle, en tout cas par une forme séquentielle. Donc comment t'amènes en fait un lecteur ou une lectrice en fait à comprendre ce truc-là. C'est voilà, il y a pas que l'aspect graphique de la bande dessinée.
Oui, donc, bien sûr, il y a toute la philosophie qui accompagne l'œuvre.
Tout à fait, oui.
Est-ce qu'il y a des lectrices, des lecteurs qui reviennent te voir après en disant « Ah, j'ai adoré cette BD que j'ai achetée chez toi ?»
Ça m'est arrivé notamment sur un livre en particulier, je repense souvent à ça. C'est marrant parce que là, comme on travaille sur les 25 ans de la maison d'édition, donc qui ont vraiment lieu en 2027, on est en train d'isoler des classiques. Donc chaque membre de la maison d'édition donne une liste des classiques du catalogue. Et il y en a un qui revient souvent, c'est Le Fils de l'Ours Père, qui a marché pendant très longtemps et qui se vend plus trop aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est un livre où plusieurs fois en festival, il y a des gens qui me l'ont acheté le premier jour du festival, et puis sont revenus le lendemain en me disant « Ce livre a changé ma vie ». Et du coup, ça, c'est vraiment perturbant, parce que en quoi un livre peut changer une vie ? Enfin, je le comprends, ça m'est arrivé aussi. Mais quand on a ce geste d'éditeur, et qu'on a cette responsabilité-là quelque part, c'est autre chose, quoi. Ça fout vraiment des frissons, quoi.
Ah bah c'est plus qu'un compliment, je dirais, presque.
C'est une responsabilité. Mmh.
2027, les 25 ans de Uchi Kuchi.
Ouais.
Tu vas faire quelque chose de particulier pour cet anniversaire ?
Bah, déjà, on va faire la teuf.
Bah, je pense que c'est bien.
Non, mais en fait, il y a plein de maisons d'édition qui fêtent leur anniversaire, et puis en fait, t'as l'impression que c'est un peu des opérations commerciales, et puis en fait, on en oublie l'essentiel qui est le... Enfin, moi, j'ai envie de faire la teuf, quoi. Donc, je pense que je sais pas quelle forme ça va prendre, mais qu'à un moment donné, on va faire la teuf, ouais. C'est assez intéressant parce qu'on était parti sur un programme qui se voulait très politique. Bah, en plus, c'est une année d'élection, 2027, et on sait pas à quelle sauce on va être mangé, donc il y avait une nécessité. Mais au final, c'est des livres politiques, donc ça prend toujours beaucoup plus de temps que ce que tu peux imaginer à l'origine. Donc ça sera plutôt 2028, on arrivera après la bataille, mais peut-être que ça sera le moment d'entrer en résistance, on sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que par contre, ça sera une année de renouvellement, parce que là, ce qui commence à se dessiner, c'est des jeunes auteurs et autrices. Donc déjà, il y a cette revue qu'on relance, donc qui va s'appeler Alzheimer numéro 1. Le numéro 1 fait partie du titre de la revue. Voilà.
Okay.
Et puis, en fait, il y a un membre actif de la maison d'édition qui s'appelle Diogo Benedetti, qui a exposé du temps de la galerie, qui a commencé comme bénévole, maintenant il est président de Uchi Kuchi, et en fait là on commence à sortir ses premiers bouquins, quoi.
Ah ouais.
C'est quelqu'un qui a été primé en fait au festival d'Angoulême, il a eu le prix Jeune Talent de la région Nouvelle-Aquitaine, et puis c'est un super mec, plein de talent, et moi je suis trop content de bosser avec cette personne, ouais.
Il y a beaucoup de personnes de jeune génération qui se mettent à la bande dessinée en tant qu'auteur.
Oui, c'est presque un problème. Tu as des écoles qui ouvrent, qui sont des écoles privées, parfois trustées par des grosses maisons d'édition. Et puis, en fait, qui font miroiter à plein de jeunes gens qu'ils et elles vont devenir auteurs et autrices de bande dessinée. Et puis, en fait... C'est pas une formation post-bac qu'il faut pour faire ce genre de boulot, c'est juste une dose d'inconscience et d'obstination inhumaine. Et c'est ça qui fait que voilà, tu finis par faire ton trou, faire carrière dedans. Il y a des gens qui sont naturellement doués, très bien pour eux, mais c'est vraiment une infime minorité. Et voilà, mais y a beaucoup de gens qui sont intéressés par la bande dessinée, mais je sais pas combien d'entre ces personnes vont réussir à publier un jour, et ça fait vraiment mal au cœur, quoi. Mmh. Après, tu vois aussi des gens qui ont une sacrée dose de talent, qui continue d'innover, qui passe en dessous des radars, qui continue à passer en dessous des radars. Donc c'est à nous aussi de continuer, tu vois, ce travail de ne pas nous reposer sur nos lauriers, de ça y est, on a 25 ans, on a fait le job. Non, ça, on continue à défricher tout ça, quoi.
Oui, il y a un travail d'accompagnement quelque part qui en ressort. Qu'est-ce que serait ton conseil pour un jeune auteur de bande dessinée? J'ai bien entendu inconscience et obstination. Qu'est-ce que serait le conseil de la part de une maison d'édition de 25 ans?
Fais 20 pages déjà sur un projet, puis sélectionne bien ta maison d'édition. Envoie pas un mail comme ça à n'importe quelle maison d'édition. Tu sélectionnes. Tu fais un mail en expliquant pourquoi tu viens solliciter cette maison d'édition en particulier. Et puis, envoie les 20 pages. En fait, un éditeur qui lit 20 pages d'un projet, c'est un éditeur qui lit le projet d'un auteur qui est sûr qu'il va s'engager sur ce projet-là. Moins de 20 pages, il y a toujours un doute. 20 pages, tu sais comment la personne ira jusqu'au bout.
Ça, c'est un bon conseil, ça.
Ben, alors, ça vient pas de moi, c'est un confrère italien de Cocconino. C'est son moyen de sélectionner. Et je le trouve très, très judicieux là-dessus. Ouais.
Très bien, Gauthier. Merci infiniment d'être venu au micro de Erdiwa.
Ben, merci, Ismo.
Est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant de clore cette interview?
Juste que j'avais ramené le Décaméron, donc qui est le premier livre qu'on a fait en collaboration avec Vincent Vanoli, qui est un auteur qui a participé vraiment au renouveau de la bande dessinée au tout début des années 90. Donc c'est un auteur qui a vraiment de la bouteille. Et c'est une réédition. Donc c'est un projet qui était sorti chez un éditeur qui s'appelait Ego Comics, qui n'existe plus malheureusement, en 2000. Donc cette adaptation du Décaméron. Et en fait, là, on l'a ressorti cette année. C'est un projet qui a été apporté en fait au comité éditorial de Zochikuchi par Diogo Benedetti, dont je parlais à l'instant. Et puis voilà, Vincent Vanoli, c'est un auteur avec qui on avait envie de collaborer depuis longtemps. Et il nous a proposé dans le même temps en fait un projet qu'il venait d'écrire, qui va sortir l'an prochain. Donc c'est avec beaucoup de fierté que j'ai ramené ce projet en fait, qui a été coordonné par la jeune garde de Zochikuchi. Tu vois, moi j'ai juste fait le scan et puis bidouillé des trucs sur Photoshop. Mais sinon c'est vraiment l'œuvre de la jeune garde de Zochikuchi. Avec un vieux routier de l'édition alternative qui est absolument fantastique.
Eh ben franchement, ça donne envie de lire ce Décaméron qui est son premier livre chez Zochikuchi, c'est bien ça?
Ouais, hein, c'est ça.
On va jeter un œil là-dessus. On rappelle aux auditeurs donc que ton atelier, l'atelier de Zochikuchi, est ouvert tout l'été à Lucandiwa.
Impasse des Sœurs.
Impasse des Sœurs.
Là où il y a un drapeau palestinien.
Merci Gauthier.
Merci Ismo.